cours d'économie.
Bonsoir et bienvenue à ce nouvel économique sur Radio Capi. Les pays africains devraient dominer le top 10 des économies à plus forte croissance au monde en 2024. Parmi ces pays figurent la RDC aux côtés du Niger, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Rwanda. C'est la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique qui le dit dans son récent rapport. Dans ce journal de l'économie, nous faisons un zoom sur la société minière de droit congolais Kamoa Copper. Elle ambitionne se classer troisième au rang mondial sur la liste des producteurs du cuivre. La société l'a dit aux députés nationaux du Lalaba le jeudi dernier à Kinshasa. Voilà pour les titres. La République démocratique du Congo, mais aussi le Niger, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Rwanda figurent parmi les moteurs de croissance les plus notables en Afrique en 2024. Et de manière générale, ce sont les pays africains qui devraient dominer le top 10 des économies à plus forte croissance au monde en cette année 2024. Information contenue dans le rapport sur les développements économiques et sociaux récents en Afrique, publié récemment par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA. Explication de Cynthia Bachizi Nabizana.
Selon le rapport de la CEA, la croissance en RDC sera alimentée par le secteur extractif grâce à l'ouverture de nouveaux gisements pétroliers ainsi que par l'agriculture, les services et les mines. Pour autant, de manière générale, les tendances du développement social en Afrique sont préoccupantes avec la montée de la pauvreté, des inégalités et du chômage qui exacerbent les défis du continent pour atteindre les ODD, les objectifs du développement durable. Ce qui corrobore avec l'analyse de l'économiste Lems Kamwanya qui estime qu'il faut une redistribution effective des effets de cette croissance pour qu'elle soit ressentie par la population.
Il faut que cela se vive dans l'assiette. Comment ces moyens financiers sont réinjectés dans les secteurs économiques intérieurs, dans les investissements, pour permettre qu'on crée des opportunités d'emploi direct ou indirect, ou des investissements qui permettent à une frange importante de la population d'avoir aussi un revenu, de consommer et de sentir qu'il est aussi en train de jouir ou de bénéficier des effets de cette croissance. Si vous n'arrivez pas à réaliser ces caps-là, là, les gens ne sentiront pas effectivement qu'il y a croissance économique.
Quelques pistes de solutions sont ainsi proposées. Revitaliser notamment le commerce en Afrique avec l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Mais aussi initier des réformes fiscales et booster l'utilisation du numérique sans oublier la nécessité de mettre en œuvre des mécanismes de financement innovants tels que les échanges de dettes.
La société minière de droit congolais Kamoa Copper, qui exploite dans la province du Lalaba, vise la troisième place mondiale dans l'ordre des producteurs du cuivre. Depuis une semaine maintenant, la société a entamé une série d'échanges avec notamment les autorités congolaises et les communautés. Jeudi de la semaine dernière, Kamoa Copper a élargi à Kinshasa cette séance aux députés nationaux élu du Lalaba. Elle les a informés de ses investissements dans les communautés. Elle cite des projets sociaux de maraîchage, de briqueterie, nettoyage auto, poulailler et école et se dit être en règle avec l'État congolais. Guy Moussuil est le responsable des projets et questions de santé, sécurité et développement durable chez Kamoa Copper. Il explique.
Nous avons contribué effectivement à hauteur de 6% pour l'année 2023 du PIB du pays. C'est une contribution en termes de redevances et taxes que nous payons à l'État et qui a des programmes annuels. Mais il y a aussi d'autres initiatives que nous faisons de nous-mêmes. Ces initiatives viennent après. Donc on peut vous donner des informations que sur une période passée, mais ce qui est sûr, et ça la population le sait, Kamoa s'investit beaucoup dans le cadre social et elle va continuer à s'investir de la même manière pour essayer de répondre à la satisfaction de la majorité des populations qui sont autour de nos opérations.
Les députés présents en ces tête-à-tête avec la société Kamoa se sont dit satisfaits des informations reçues. Ils appellent cependant la société minière à mieux faire sur les aspects de recrutement et de la sous-traitance. Le député national Alain Katinga est l'élu du Lalaba.
Nous avons d'abord évoqué la question relative aux critères de recrutement dans l'entreprise parce qu'à tout moment, il y avait des soucis. Et à cette préoccupation, l'entreprise ou les responsables responsables nous ont donné des réponses et nous attendons l'applicabilité. En dehors des critères de recrutement du personnel au sein de l'entreprise, nous avons aussi évoqué la question de la sous-traitance. Et donc la loi sur la sous-traitance est très claire, donc il est très important d'accorder la chance aux Congolais et non se cacher derrière les étrangers. Ça c'est notre souci majeur. Je crois que nous avons reçu les réponses. Et il y a des Congolais qui sont dans la sous-traitance et les responsables nous ont promis également d'aller vérifier si vraiment il y a quelques sous-traitants qui sont dans les mains des étrangers et nous vont nous donner bien sûr la suite. Et donc notre préoccupation majeure a tourné beaucoup plus au niveau des critères de recrutement au sein de l'entreprise Kamoa ainsi que la sous-traitance au regard de la loi à la matière. Donc ça c'était notre souci et aussi bien sûr les conditions ou encore les critères parce que Kamoa a un centre d'excellence où on forme les étudiants dans les différents domaines et quels ont été les critères. Je crois que c'était très clair. D'abord, on privilégie les enfants du coin où sont exploités les minéraux.
Merci à Dona Madimba qui a pu obtenir pour nous tous ces éléments. Et j'appelle à présent Cynthia Bachizi pour nous faire un zoom sur cette industrie minière florissante de l'ex-Grand Katanga, Kamoa Copper.
Kamoa Kakula Ivanoege Kamine est une mine de cuivre de classe mondiale située à 25 km de Kolwezi dans la province du Lualaba et à 270 km de la ville de Lubumbashi. La co-entreprise est détenue par le Canadien Ivanoe Mine, le Chinois Zinchin Mining et l'État congolais à travers la Gécamine. En seulement presque 3 ans d'exploitation, la co-entreprise ambitionne de figurer dans le top 3 de classement d'industrie du cuivre au monde. Ambition portée notamment par l'entrée en fonction prochainement au cours du troisième trimestre de 2024, sauf imprévu de la phase 3 du concentrateur de la jointe Venture. Ainsi, les prévisions annuelles de production pour 2024 pour Kamoa Kakula sont estimées entre 440 000 et 490 000 tonnes de cuivre sous forme de concentré. Autre bonne nouvelle pour la société Ivanhoe, c'est l'enregistrement d'un chiffre d'affaires annuel record en 2023, chiffré à plus de 2 milliards de dollars américains, mais aussi la découverte de la mine de Makoko en 2023. Elle figure parmi les 5 plus grandes découvertes de gisements de cuivre au monde. Pour autant, des acteurs de la société civile thématique mine se disent assoiffés de justice sociale pour une meilleure répartition de cette richesse pour que cette industrie minière florissante dans l'ex-Grand Katanga profite réellement aux communautés locales affectées par les activités minières.
Merci à vous, Cynthia Bachizi sur Radio Kapi.
Écho d'économie.
Place à présent à l'invité de l'économie. Les femmes agripreneurs de la ville de Bukavu sont confrontées à plusieurs défis, notamment la surtaxation forfaitaire et arbitraire. La maison régionale des jeunes, qu'il estime ainsi, a organisé vendredi en leur faveur une journée d'action et de plaidoyer. Cela dans le but de les sensibiliser justement sur les 10 défis et à rechercher ensemble des solutions concrètes pour renforcer leur autonomisation économique. L'invité de l'économie pour en parler est Honneur David Safari, directeur de la Maison régionale des jeunes. Il répond aux questions de Rachel Kissembangou.
Honneur David Safari, bonjour.
Bonjour madame.
Vous organisez la journée d'action et de plaidoyer en faveur de femmes agripreneurs pour célébrer la Journée internationale de droits de femmes. Pourquoi cette journée? Pourquoi cette activité?
Comme on le dit, c'est pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. C'est moi consacré à nos mamans, à nos sœurs, à nos filles, et à tous ceux qui se battent pour le respect de leurs droits. Ensuite, c'est parce que, comme vous le savez, les femmes agripreneurs, c'est une catégorie des femmes qui, finalement, n'est pas prise en compte dans notre communauté. Pourtant, comme vous le savez, elles sont au cœur de notre alimentation dans la ville de Bukavu. Les fruits, les légumes, les tubercules et autres viennent évidemment de ces femmes qui, non seulement vendent avec très peu de moyens financiers, mais savent tenir des familles dans un contexte de crise économique accrue dans notre pays et dans le monde. C'est-à-dire que ce sont des piliers, finalement, de notre économie. l'économie, des piliers également de nos familles. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, il faut les célébrer, nous en tant que mesure régionale des jeunes, parce que ce sont des femmes et des jeunes filles très actives dans la dynamique régionale notamment.
Quels sont notamment les défis auxquels sont confrontées ces femmes agripreneurs et qui sont invitées dans cette salle pour justement les sensibiliser à ces défis auxquels ces femmes font face?
Nous avons invité différentes autorités d'abord, les maires notamment, parce qu'on a voulu commencer d'abord par la ville de Bukavu. Il y a plusieurs défis, je vais les citer notamment, une sorte de taxation forfaitaire et arbitraire. À Bukavu, les femmes agripreneurs ne savent pas qu'est-ce qu'elles doivent payer, pour quelle nomenclature, comment ça s'est fait que les services d'assiette viennent tous les temps demander de l'argent et parfois dans l'arbitraire sans savoir ce qu'elles doivent passer. Il y a un problème notamment des infrastructures routières. Là où elles doivent aller chercher des produits, c'est presque inaccessible. Dans le Fizi, dans l'Ouvira, pour qu'elles passent dans d'autres territoires à la recherche des produits, eh bien, c'est difficile d'y accéder parce qu'il n'y a pas de route. Il y a une insécurité aussi accrue là-bas. Il y a ces problèmes de manque de marché également. Parce que vous allez voir que quand elles sont à Bukavu, pour qu'elles vendent leurs produits, c'est parfois des dépôts qui ont été loués par-ci, par-là et généralement, elles n'ont pas de moyens pour continuer à louer ces dépôts-là. Elles plaident évidemment aujourd'hui pour notamment avoir des dépôts, avoir un marché spécifique pour les produits de ces femmes agripreneurs. Ensuite, il y a aussi ces problèmes pour les revendeuses, par exemple. Il y a des policiers. Et c'est comme ça que nous dénonçons aujourd'hui les violences policières contre certaines de ces femmes-là. Elles nous donnent à manger, mais elles sont bastonnées, frappées, leurs marchandises ravies. C'est pas normal dans un contexte où nous devons protéger la femme. On dit qu'on va protéger la femme, commençons par quelque part. Et nous avons dit, nous soutenons les actions d'assainissement, par exemple, parce qu'on doit rendre notre environnement sain et propre, mais nous refusons que les femmes soient frappées, soient violentées, parce que simplement, on ne veut pas qu'elles soient à tel ou tel autre endroit sans d'ailleurs qu'on trouve des mesures pour pouvoir les encadrer. Donc il y a plusieurs défis et ces femmes, elles ont cité ces défis et nous pensons que les autorités vont devoir les écouter et nous allons continuer à faire des mémorandums, des actions, des plaidoyers pour pouvoir aller rencontrer les autorités et les accompagner. Comme vous le savez, madame la journaliste, ces femmes ici font parfois des échanges avec les pays des Grands Lacs, le Rwanda, le Burundi, la République démocratique du Congo. Ces femmes sont l'exemple même de la promotion d'une cohabitation pacifique et d'une cohésion sociale dans les Grands Lacs. Il faut juste les écouter, les accompagner, faire en sorte que le travail qu'elles font puisse aussi continuer à contribuer à cette cohésion pour le peuple des Grands Lacs.
Quelles sont les solutions concrètes pour renforcer leur autonomisation économique dans ce contexte marqué par tout ce que vous avez cité comme défi?
Nous avons d'abord commencé par les regrouper en coopérative. Elles sont maintenant des femmes regroupées en coopérative.
Elles sont nombre de combien?
Oh, c'est des centaines de femmes. Vous le voyez. C'est des centaines de femmes regroupées aujourd'hui en coopérative. Il s'agit à partir même de Fizi, Ouvira, Bukavu. C'est vraiment des mamans, des filles qui se battent pour pouvoir changer les choses. Les solutions, c'est qu'elles puissent accéder à des crédits qui peuvent les aider à multiplier les revenus et parvenir à l'autonomisation. Que les conditions, par exemple, sécuritaires et infrastructurelles soient améliorées partout où elles vont travailler. Que l'État, par exemple, se dise, il faut quand même réduire la taxation en faveur de ces mamans. Donc, on ne peut pas quand même faire payer à toutes ces femmes comme on fait payer à toutes les entreprises. Il faut chercher une taxation qui tienne compte de leur niveau de vulnérabilité.
Honore David Safari, je vous remercie.
Merci aussi à vous, Rachel Kiesembango, et grand merci à vous, chers auditeurs, de commencer cette semaine avec nous. Écoute Économie se referme, mais vous pouvez les retrouver en continu au plaisir sur www.radiocapi.net.